Marie-Colombe Robichaud, bonjour.
Bonjour, Daniel.
Marie-Colombe, vous avez grandi à Chétiquan auprès de votre famille, vos parents, vos amis, vos grands-parents. Quelle influence a eu sur vous votre famille immédiate en grandissant ici à Chétiquan?
Bien, je vais te dire, Daniel, que ma famille, étant liée avec un oncle comme le père Anselme Chiasson, dès mon jeune âge, moi, j'ai vu comment c'était important de sauvegarder les traditions, les légendes, les contes, les chansons, tout ce qui avait à faire avec le patrimoine et la culture acadienne. Parce que chez nous, c'était la maison où le père Anselme avait été né. Puis son père, mon grand-père, Timothée, habitait avec nous autres. Alors, à tous les fois que le père Anselme s'en venait à Chétiquan, bien, il couchait chez son frère Willy Mons, qui était droit à côté de chez nous. Mais tous les soirées se passaient chez nous. À tous les soirs, quand le père Anselme était à Chétiquan, il s'en venait avec son gros magnétophone. Puis les gens, les raconteurs comme Lou Bialuc Chiasson et les gars à Anselme à Charles et à Placide à Charles qui pouvaient jouer de la musique, la maison se remplissait, puis Père Anselme les enregistrait, la musique, les chansons, les contes, il faisait mon grand-père chanter. Là, j'ai vu très jeune l'importance à donner, à sauvegarder ce que nos ancêtres nous avaient quitté.
Est-ce qu'on peut dire que vous avez toujours aimé, adoré les histoires du passé?
Toujours, toujours, toujours. Je regrette que je n'en ai pas fait compter assez, mais maman et mon père et mon grand-père, ils étaient le soir, bien, tu sais, on n'avait pas la télévision, puis tout ce qu'on faisait, c'était raconter. Des fois, ça faisait un petit peu peur. Mon grand-père racontait des fois que ça parlait des loups-garous et des ceux-là qui enchaumaient, les enchaumeurs, et des choses comme ça, les feux follets. On avait un petit peu de crainte, là, parce qu'on croyait que c'était vrai, puis ça nous arrive à nous autres aussi.
Qu'est-ce que ça a toujours représenté pour vous, votre héritage acadien?
Ça a représenté que c'était une partie vivante dans notre vie. Je pourrais dire que je l'ai manqué un peu dans mes années passées au couvent. Ça a été comme une fermeture, je dirais, sur la période avant que je suis rentrée au couvent. Puis là, après ça, quand j'ai sorti, j'ai repris mon intérêt. Parce que au couvent, on dirait que c'était pas parler, c'était pas discuter la vie acadienne. On voulait parler le français standard, puis c'était presque comme une honte de parler en acadien. Ben on se corrigeait l'une à l'autre si on parlait pas bien français. Puis quand je suis sortie, là, l'intérêt m'a repris, parce que Père Anselme est encore dans l'existence, puis il gagnait des prix, puis il créait des maisons acadiennes, puis des maisons d'édition, puis tout ça. Puis là, ben, j'ai élevé mes enfants, mais après, je me suis dit, faut que je continue comme lui aussi, que je me lance dans la même chose pour faire revivre dans mon cœur ce que j'avais vécu au début.
Alors, vous mentionnez comme ça le père Anselme Chiasson, qui était très, très bien connu en Acadie et ailleurs. Parle-nous un peu du rôle qu'a joué le père Anselme Chiasson dans votre vie.
Bien, moi, j'ai toujours été en contact avec lui. Même quand j'étais au noviciat et religieuse à Moncton, père Anselme était toujours. Puis, ensuite, quand je me suis mariée, mon mari et moi, on allait souvent pour des conventions de matériaux de construction, et on manquait jamais d'aller visiter Père Anselme à sa maison à Moncton. Puis quand j'écrivais dans les articles dans le courrier, un petit coin du passé, je le mettais au courant, puis il m'encourageait. Puis là, après ça, je me suis décidée de faire de la recherche au centre acadien ici. Puis j'avais vu que Père Anselme, dans les années 70, dans les journaux appelés Évangéline, dans ce temps-là, lui aussi avait écrit en acadien, Kunkushparlant. Puis c'était appelé le coin à Pikine. Puis je me suis dit, ben, moi je vais demander s'il serait d'avis qu'on pourrait faire une maison d'édition. Ma fille elle avait fait sa thèse sur la légende de Saint Amateur, la vie et les légendes de Saint Amateur. Puis c'était tellement, elle avait tellement fait de travail, tellement fait de recherche, ça valait la peine de le publier dans un livre, mais j'avais envie de faire ma propre maison d'édition avec, dans le derrière de ma tête, la possibilité qu'il y aurait eu d'autres livres venant de notre famille Robichaud ou Chiasson. Alors, Père Anselme m'a donné l'autorisation de me servir du mot « Pikine ». Moi, j'ai écrit ça, les éditions de la Pikine. Puis, on a formé notre propre maison d'édition, mais c'était toujours avec Père Anselme derrière qui m'aidait, qui a même corrigé mon premier livre, le 100 petites histoires du passé. Il l'a revisé avant que je le publie. Alors, il a été dans ma vie jusqu'à sa mort.
Vous avez publié comme ça 3 volumes de 100 petites histoires du passé pour conserver notre langue, notre culture acadienne. Parlez-nous de l'importance de ces 3 recueils-là.
Ces 3 recueils-là sont très importants pour moi parce que j'ai essayé de mettre autant de mots comme nos ancêtres se servaient. Ces mots-là qui sont portés à disparaître parce que ils vont venir qu'ils n'existeront plus dans notre vocabulaire. Il y a assez de choses modernes et techniques maintenant que les jeunes se servent plus de ces mots-là. Puis juste les entendre, les dire, ça s'oublie. Mais si c'est mis par écrit, puis écrit aussi proche de la façon qu'on le disait, c'est important, c'est écrit, c'est là.
Vous êtes également l'auteur de plusieurs pièces de théâtre. Votre but, là aussi, c'était de sauvegarder notre riche passé?
Ah oui, parce que la première fois que mon garçon Daniel voulait faire du théâtre, il voulait que j'écrive la première pièce de théâtre, j'ai dit, Daniel, je le ferai, mais à condition que ça soit juste à faire avec la vie acadienne. Ben, il était content de ça. Alors, la première pièce qu'on avait faite, c'était en 1995, je pense. Puis, c'était comme un souper théâtre, puis c'était acadien de la tête aux pieds. Puis, celle-là, on a eu la chance d'aller la jouer à Chéticamp. Mes acteurs parlaient en acadien sur l'estrade. Puis, c'était tout pour montrer comment les Acadiens vivaient sans électricité, sans toilettes, sans beaucoup de choses qui leur manquaient dans la vie. Puis là, après ça, quand j'ai repris en 1998, qu'on a commencé à en faire d'autres, j'ai fait tous les thèmes possibles, comme le mariage acadien, comme c'était fait longtemps passé. On se mariait à 7 heures du matin, faut aller voir son parrain et sa marraine avant de se marier, et toutes ces petites choses-là. Là, j'ai fait une classe d'école acadienne, j'ai fait un wake en premier avec un vrai coffre, si tu veux, sur l'estrade. Donc, je voulais montrer comment le monde est enseveli dans les maisons, sur des bories, une planche sur des bories ou dans un coffre dans la maison. Alors, moi, j'ai vraiment, si j'avais pas vieilli, si je pouvais retourner à 50, je crois que je serais encore bien impliqué dans ça.
Vous avez également participé à des festivals de contes au cours des années. Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience-là?
Mais j'ai vraiment aimé ça. Je regrette qu'on a abandonné notre festival de contes en clair. Puis avec le COVID, bien sûr, ça a mis des freins à toutes nos activités. Mais si les comptes reprenaient, même en petits groupes, j'irais volontairement participer parce que j'avais tellement aimé ça. Là, ça m'a fait connaître comment le Père Anselme avait recherché les comptes au Nouveau-Brunswick, à l'île du Prince-Édouard, aux îles de la Madeleine. Et j'ai les comptes de Chéticamp que j'avais pas mis la main dessus au début. Moi, je les ai... Quand j'ai raconté des comptes et suivi des leçons des ateliers pour des compteurs, je voulais absolument raconter seulement les comptes que nos ancêtres avaient amenés chez nous. Ça me disait pas d'en faire, là, inventer des comptes qui étaient pas vrais. Et si j'en inventais, fallait que je mette du vrai dedans. Comme par exemple le conte des feux follets. Je voulais raconter à l'égard des feux follets, mais là je m'ai fait une histoire que Théotime avait sorti dans la nuit pour aller chercher son chien, mais il s'est fait attaquer par des feux follets, puis j'ai tout expliqué. Puis c'est un beau petit livre que les enfants, teenagers ou adultes même, peuvent se procurer le livre, puis c'est un conte, mais c'est un conte qui a du vrai dedans.
En terminant, en regardant tout ce que vous avez accompli au cours des années pour la sauvegarde de l'héritage acadien, c'est quoi dont vous êtes le plus fier aujourd'hui après toutes vos années de travail?
Mais c'est que, je suis pas encore rendue à la centaine, là, mais à mon âge, 78, c'est que c'est encore tout vivant, ces choses-là que j'ai pu faire, puis je peux en parler, puis me réjouir que j'ai ça pour un petit bagage à quitter à mes enfants puis à mes petits-enfants. Puis, c'est pas gros, c'est peut-être juste une goutte dans l'histoire acadienne, mais je l'ai accompli, puis j'en suis fière, c'est ça.
Alors, Marie-Colombe Robichaud, bravo pour tout ce que vous avez accompli au cours des années pour sauvegarder la culture acadienne. Merci d'avoir pris le temps de jaser avec nous aujourd'hui et bonne chance.
Mais merci, Daniel, de m'avoir donné l'occasion de parler avec toi. Puis, je peux en faire plus pour d'ici les années que j'aurai encore devant moi, je vais continuer parce que c'est dans moi.
Merci beaucoup.
Vive l'Acadie!